Dans le cadre de notre partenariat avec le journal La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie,
j'entends beaucoup parler de votre travail.
Retrouvez les grands titres du journal sur Divergence FM avec Françoise Verna,
je vous adore,
rédactrice en chef adjointe en charge de l'édition Occitanie.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Au téléphone avec nous et comme toutes les semaines, Françoise Verna, rédactrice en chef de La Marseillaise, l'hebdomadaire incontournable d'Occitanie. Et on va évoquer avec elle, comme tous les vendredis, les gros titres à paraître sur cette nouvelle édition. Bonjour Françoise.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Et on commence comme chaque semaine, Françoise, avec le dossier de La Marseillaise. Et cette semaine, il porte sur la crise du logement social en Occitanie, où 190 000 personnes sont en attente d'un logement en ce début d'année 2024.
Oui, ce sont les chiffres officiels hein, qui ont été donc révélés par Habitat Social en Occitanie, qui fédère tous les organismes HLM, ils sont 63, de la région. Alors c'est une crise majeure du logement social, hein, et nous expliquons dans ce dossier les raisons de cette crise, notamment une absence d'une politique de l'État et du gouvernement qui est volontariste. Mmh. On peut dire que la nomination de Guillaume Kasbarian au ministre du logement est une très mauvaise nouvelle, puisque c'est lui qui avait porté une loi qui visait à punir les personnes qui étaient en retard de loyer, donc une réponse répressive, alors que la réponse, elle est dans la construction et elle est surtout dans l'aide à ces organismes de logements sociaux qui, au contraire, sont empêchés.
Et oui. À lire aussi dans cette nouvelle édition de La Marseillaise, le centre pénitentiaire de Béziers, que l'on connaît bien à Divergence FM, puisqu'on avait fait des production avec eux, est au bord de l'explosion avec 710 personnes détenues pour 389 places. C'est énorme.
Oui, alors c'est en fait, il y a une bombe à retardement dans ce centre pénitentiaire et dans beaucoup de prisons en France, puisqu'il y a une surpopulation carcérale qui est endémique, connue. Et là, quand on voit les chiffres, 389 places, 710 personnes détenues, on voit bien qu'il y a un vrai problème. La prison, c'est la privation, quoi qu'on en pense, c'est la privation de liberté, c'est pas la privation de la dignité. Oui. Alors, ceux qui tirent la sonnette d'alarme, là aussi, ce sont les salariés, les agents pénitentiaires, qui doivent faire avec cette situation, avec des relations très tendues entre les détenus, dues à cette surpopulation et à l'absence vraiment de décisions et de dispositifs qui doivent être axés sur la réinsertion. Mmh. Quand on doit gérer la surpopulation, on ne peut pas mettre le paquet sur la réinsertion.
Et absolument. La région cherche des conducteurs de scars scolaires et a décidé de prendre en charge leur formation.
Oui, tout à fait. La région Occitanie, alors on sait très bien qu'il y a énormément de jeunes scolarisés qui ont besoin d'être transportés avec par car sur le lieu de leurs études, puisqu'il y a des zones rurales, périurbaines, où il n'y a pas de transport en commun classique. Le problème, c'est qu'il y a une véritable hémorragie chez les conducteurs de cars scolaires, parce que c'est un métier difficile.
Et mal payé.
C'est un métier mal payé, parce que en fait, les horaires sont aussi très spécifiques.
Oui.
Et donc, la région Occitanie vient aussi là pallier un problème, on peut dire, qui est quand même national, en décidant de financer la formation. Et en fait, elle espère comme ça pouvoir attirer des candidates et des candidats de l'ordre à peu près de 300. 300, c'est énorme, pour assurer le transport des enfants et des adolescents.
Et pour finir un petit peu de culture, avec la photographie qui entre au musée Fabre, une fois n'est pas coutume, avec la donation du photographe Raymond Depardon.
Oui, alors là, c'est vraiment un événement, puisque Raymond Depardon, on le présente plus, c'est un très grand photographe, c'est le photographe aussi du quotidien, qui a beaucoup, beaucoup travaillé aussi sur les paysages, sur le monde paysan aussi. Mm-hmm. Et donc, il a fait don de 3 séries photographiques au musée de Montpellier, le musée Fabre, et donc, qui s'ouvre avec ce geste-là au 8e art. Et évidemment, il va y avoir des expositions qui vont se monter pour que le public puisse accéder à cette donation. Il y a quand même 200 photographies qui ont été données par Raymond Depardon.
Allez, à la une de la Marseillaise, chers auditeurs, vous avez les titres et on en parle tout de suite avec Françoise Vernat.
Politique, sociale, société, économie, France et internationale, environnement, sport, culture et loisirs, la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie, c'est à retrouver tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.
Et comme on le disait en introduction, chère Françoise, le dossier de la Marseillaise porte sur la crise du logement social en Occitanie.
Oui, tout à fait. Alors, on peut dire qu'aujourd'hui, l'accès au logement social est devenu quasi impossible dans la région, mais c'est un exemple régional, évidemment, mais c'est aussi, d'un point de vue national, une crise majeure. Alors, il y a quand même, en Occitanie, 190 000 personnes, ça c'était les chiffres du début d'année 2024, en janvier, qui sont en souffrance, qui sont en attente de logement social. C'est un record. Et donc, il y a une mobilisation de la part des organismes HLM. On pourrait se dire, il faut qu'ils construisent, sauf qu'ils sont en but à une politique anti logement social qui est menée, on peut le dire, depuis 2017 par le président Macron. On peut rappeler ce qu'on fait dans ce dossier, au-delà de donner les chiffres et la parole à ses représentants du logement social en Occitanie, que dès 2017, la décision de supprimer, de baisser les allocations logement, les APL, donc aux personnes qui pouvaient de 5 euros par mois, ça a eu un impact dévastateur pour les bailleurs sociaux à qui l'État a demandé de pallier à cette baisse en baissant eux-mêmes les loyers. Donc, en gros, le résultat, c'est que depuis 2018, il manque dans les caisses à peu près 1,3 milliard par an aux bailleurs sociaux. Une deuxième décision qui a été dévastatrice, c'est que c'est assez hallucinant, c'est qu'il y a eu une hausse de la TVA sur les constructions de certains logements sociaux. Elle était à 5,5, elle est passée à 10%. Donc on peut imaginer que les difficultés de construction ont été dues aussi par cette politique. Et puis, en bon libéral économique, il y a aussi eu la porte ouverte à la vente à la découpe du patrimoine social, de logements sociaux. Alors c'était présenté comme une solution à la crise, sauf que c'est un échec total et ça affaiblit un peu plus le parc HLM. Aujourd'hui, Michel Calvo, qui préside Habitat Social en Occitanie, qui réunit donc les 63 organismes du logement social de la région, il estime qu'il faut construire 14 000 logements sociaux par an pendant 10 ans pour rattraper la crise. Simplement pour la région Occitanie.
Oui.
Et donc, en regard, il faut savoir que en 2023, il y a eu simplement 82 000 nouveaux logements sociaux qui ont été agréés sur le plan national, ce qui est un des chiffres historiquement les plus bas qu'on en a pu connaître. Et donc, on parle, ces responsables du logement social parlent carrément d'une crise sociale dévastatrice à venir si rien n'est fait, s'il n'y a pas de sursaut. On peut s'interroger aussi sur le signal envoyé par le gouvernement.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire.
Voilà, avec la nomination de Guillaume Gasparian au ministère du Logement. Alors, il faut savoir que ce député, qui est devenu ministre maintenant, il a porté depuis 2020, il a réussi à arriver à ses fins en 2022-2023, une loi appelée dite anti-squatteur, avec un choix de la répression. Il menaçait même de prison les personnes qui n'arrivaient pas à payer leur loyer. Donc, c'était vraiment la chasse aux locataires, un ennemi des locataires, un ennemi du logement social.
Oui, puis c'est faire un raccourci aussi, chère Françoise, parce que je suis désolé, quelqu'un qui ne paie pas son loyer n'est pas un squatteur, c'est pas quelqu'un qui rentre dans une maison au détriment de quelqu'un d'autre. Il a payé son loyer à un moment donné.
On n'est pas sur
les mêmes choses.
Oui, mais même la loi anti-squat qui durcit les punitions quand on occupe un endroit sans en avoir le droit légal. Il faut savoir qu'on est quand même dans une situation aujourd'hui, comme le rappelle la Fondation Abbé Pierre, où on a 4 millions de personnes qui sont mal logées, on a 2,4 millions qui sont en attente de logement social, dont les 190 000 en Occitanie, et on a 1 million de personnes qui sont sans domicile personnel. Donc, quand on a cette situation, on ne peut pas répondre par la répression. Et en plus, les annonces du Premier ministre Gabriel Attal, qui veut détricoter la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, la loi SRU, qui permet la mixité sociale en imposant à certaines communes de construire au moins 25%, avoir au moins 25% de logement social, il veut rentrer dans cette comptabilité, ce qu'on appelle le logement intermédiaire, mais qui ne répond, qui n'est pas la réponse aux personnes aujourd'hui qui sont en attente de logement social ou qui sont sans domicile.
Oui, et puis les villes vont construire que ces logements intermédiaires et ne vont plus faire de logements sociaux du coup. Et
ils
vont
rentrer dans les cases. Oui, alors il faut savoir que, il faut savoir un exemple tout simple, un couple avec deux enfants qui a 7000 euros de revenus par mois est éligible à un logement intermédiaire. Donc ça donne un petit peu le profil des personnes qui sont visées. Voilà, donc c'est vraiment une politique qui n'est pas, qui non seulement n'est pas à la hauteur, mais qui en plus est, on peut le dire, contre le logement social. Donc on donne la parole à différents élus, aux responsables des logements sociaux dans ce débat, dans ce dossier. Et puis on va suivre ça de près puisque le Congrès national des HLM va se tenir en septembre prochain à Montpellier.
Allez, chère Françoise, on reste toujours dans, dans le manque de place. Le centre pénitentiaire de Béziers est au bord de l'explosion avec 710 personnes détenues pour 389 places.
Oui, alors ce centre pénitentiaire, il est au bord de l'explosion. On peut dire qu'il explose. Il y a 140 personnes détenues qui dorment sur des matelas à même le sol. Et donc, évidemment, cette situation, on peut comprendre qu'elle génère de plus en plus de tensions. Et donc, les seuls pour l'instant à tirer la, la sonnette d'alarme, ce sont les salariés, les agents pénitentiaires qui se retrouvent à gérer l'ingérable. Donc, c'est Béziers fait partie des maisons d'arrêt les plus surpeuplées d'Occitanie. On peut citer aussi Villeneuve-les-Maguelones et puis Nîmes et Carcassonne. Ce sont deux villes en Occitanie où il y a plus de 200% d'occupation chacune. Donc, on peut se poser la question, la prison, c'est la privation de liberté, c'est pas la privation de la dignité. Et donc, on fabrique des cocottes minutes où, en fait, tout ce qui devrait être mis en œuvre pour la réhabilitation et puis pour l'insertion, puisque le but, c'est de sortir aussi, de sortir,
De pas se réinsérer.
Voilà, donc ce que nous raconte le représentant d'un des syndicats qui s'appelle l'UFAP dans les colonnes du journal, c'est que il décrit vraiment un sentiment d'abandon, parce que il nous dit que c'est une situation qui est dénoncée depuis des années, et qu'ils ont l'impression que ils n'ont pas que l'impression, rien n'est fait. Et puis ils sont aussi en colère parce qu'ils en ont marre, comme ils disent, d'essuyer les plâtres d'une politique pénale qui n'est pas à la hauteur. Et donc, il a cette formule, j'aimerais qu'on arrête la politique de la catastrophe aérienne, c'est-à-dire n'attendons pas qu'il se passe quelque chose de grave pour prendre des mesures. Donc, c'est un cri d'alarme, une situation qui est... la France est régulièrement condamnée pour la façon dont elle traite les personnes incarcérées. Et donc, on en a un exemple criant dans notre département de l'Hérault et à Béziers.
Et face à ça, que répond le gouvernement ? Pas grand-chose.
Eh bien, en fait, ils se targuent de construire des prisons. Mais bon, c'est une solution aussi qui n'est pas... on le sait très bien que l'Observatoire des prisons le dit, c'est pas en construisant plus de places qu'on règle la question de la surpopulation carcérale. C'est aussi en pensant des peines qui soient... Il y a beaucoup de personnes qui sont en prison aussi qui ont des problèmes. C'est ce que souligne aussi ce représentant syndical des agents pénitentiaires, qui sont des personnes qui ont des troubles graves psychologiques et psychiatriques. Donc il y a aussi la question de la santé et certainement des personnes qui ont n'ont rien à faire en prison, entre guillemets, dans la mesure où leur pathologie qui a pu les pousser à commettre des actes délictueux ne sont pas prises en charge. Mais ça, c'est une autre question qu'on pourra traiter aussi. C'est le naufrage de la psychiatrie dans notre pays.
Affaire à suivre. La région recherche des conducteurs de cars scolaires et a décidé de prendre en charge leur formation.
Oui, alors, le problème de la pénurie de chauffeurs de cars scolaires, là aussi, c'est un problème très concret. C'est-à-dire qu'on a énormément d'enfants, que ce soit de primaire, dans le secondaire, qui vivent dans des zones qui ne sont pas forcément desservies par le transport en commun classique. Mmh. Et on a besoin de chauffeurs spécifiques et d'un transport scolaire spécifique. Pour ça, il faut des personnes qui conduisent. Sauf que c'est un métier qui est mal payé, qui est difficile, avec des horaires complètement décalés. C'est le matin très tôt, c'est l'après-midi, puis entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est pas des professions attractives. Et il y a une véritable pénurie. Donc, la région Occitanie a décidé de prendre les choses un petit peu le taureau par les cornes en proposant un recrutement et en proposant aux candidats futurs de voir cette formation de conductrice ou conducteur de car scolaire rémunérée. Donc, en gros, c'est formation financée, emploi assuré.
D'accord.
C'est l'accroche de la région Occitanie qui apporte un soutien financier à la formation de ces futurs conducteurs. Il faut savoir que ce sont des formations importantes parce qu'on transporte des enfants.
Hein.
Puis c'est quand même il faut de la sécurité. Il y a 400 heures de formation, première formation, et il y a une formation encore plus complète de 560 heures, on imagine bien, et on a quand même un coût moyen de ces formations individuelles par personne qui va de 4 000 à 6 000 euros.
D'accord.
Donc, quand on est une personne qui veut peut-être embrasser ce métier, on n'a pas les moyens de se payer la formation. Donc, la collectivité, dans le cadre de son plan régional de formation, finance une partie de cette formation. Donc, c'est quelque chose qui est à souligner parce que, on nous bassine beaucoup sur la question du travail, des personnes qui seraient où sans emploi, qui auraient des secteurs en tension aussi qui sont pas fournis.
Oui.
Mais il faut savoir aussi que pour accéder à certains métiers, il faut pouvoir être formé, il faut pouvoir financer cette formation et puis après avoir un travail au bout. Et donc là, c'est un exemple très concret qui répond à un besoin social important qui est de transporter les enfants vers leur lieu d'éducation.
Oui, puis il y a un travail, lequel rémunéré, on dit souvent, mais il y a du travail en France, oui, mais lequel et comment il est rémunéré?
Exactement.
c'est toujours un peu le problème.
voilà, exactement. Donc c'est pas pour rien non plus qu'il y a une pénurie.
Et oui.
C'est que c'est des métiers qui ne sont pas valorisés alors qu'ils sont essentiels. On va dire que ce sont des métiers, on dit souvent ce sont des métiers de première ligne qui sont essentiels.
Allez, chère Françoise, on finit avec la donation du photographe Raymond Depardon, qui a fait une donation donc au musée Fabre, et c'est pas rien.
Oui, alors Raymond Depardon, il fait entrer, on peut dire, la photographie au musée Fabre de Montpellier, puisqu'il a fait donc il y a quelques jours une donation, un don en fait, il y a à peu près 200 tirages, c'est 3 séries photographiques. Et donc c'est un geste, d'abord c'est un très beau geste, hein, qui fait vraiment rentrer la photo dans ce musée. On a parmi cette donation une série qui s'appelle Rural.
Oui.
Donc là c'est 86 tirages qui ont. Donc il a fait, il a sillonné la France. Et la France paysanne.
Ouais.
Donc ça, en plus, ça fait écho avec les mobilisations récentes du monde paysan, on va dire. Hein. C'est vraiment des photos. On donne quelques clichés, bien évidemment, ce n'est qu'un avant-goût de ce qu'on pourra voir, on espère, bientôt au musée Fabre. Quelques photos où il y a évidemment des personnes, des paysans, et on a des paysages aussi qui sont, on va dire, magnifiés, en noir et blanc notamment. Il y a aussi Il y a des séries, il y a une série photographique qui s'appelle Son œil dans ma main.
Oui.
C'est 85 photos qui ont été réalisées. Alors là, c'est un pan de l'histoire. Hein, au moment des négociations préalables aux accords précédant l'indépendance de l'Algérie.
Oui.
Il a fait ça en 1961 à Alger. Et puis, en 2019, à Alger et Oran. Et donc, on a aussi cette donation de ce travail-là sur l'histoire, on va dire, franco-algérienne hein, et puis de l'indépendance de l'Algérie. Et donc, il dit hein, et qu'il est très honoré de rentrer au Musée Fabre.
Ouais.
Hein. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que il va y avoir bien évidemment des expositions. Hein,
et oui, parce qu'il faut le voir, ce travail.
Commentées. Exactement. Donc il va y avoir bientôt une carte blanche à venir donnée à Raymond Depardon au
oui.
Musée Fabre. Et donc on sera là évidemment pour en rendre compte et puis aussi pour inviter évidemment le maximum de personnes à aller le voir.
Mmh.
Il faut rappeler que Raymond Depardon, c'est un reporter, il a été photographe, évidemment documentariste.
Oui.
Il a été aussi reporter de guerre et il a créé l'agence de photos Gamma.
Mmh.
Donc ça, on le sait peu, mais c'était en 1966. Et donc, il est venu en personne signer cette donation au Musée Fabre de Montpellier.
Mmh. Et bien voilà, tout est dit, chère Françoise. À retrouver bien plus encore, évidemment,
oui.
dans ce nouveau numéro de la Marseillaise dans tous les bons kiosques. Et puis, chers auditeurs, rendez-vous sur le www.lamarseillaise.fr pour avoir vraiment toute l'info complète. Merci Françoise.
Merci beaucoup, à bientôt.
À la semaine prochaine.
En partenariat avec Divergence FM, retrouvez chaque semaine sur l'antenne du 93.9 les titres de la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie avec Françoise Vernat. La Marseillaise, c'est tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.